Imaginons un instant que l'eau devienne une monnaie d'échange bien plus forte, bien plus déterminante que notre propre devise nationale.
Ce qui est une idée assez vertigineuse quand on y pense.
Ah mais totalement. Au point de dicter de manière absolue la survie de la moindre exploitation, du plus petit verger jusqu'au gigantesque projet agro-industriel.
Et c'est exactement la réalité qui ressort de nos sources aujourd'hui.
Bon, décortiquons tout ça. Pour ceux qui nous écoutent, notre décryptage d'aujourd'hui nous plonge dans un document extrêmement fouillé. C'est un dossier spécial qui s'intitule « IMAG spécial SIAM 2026 ».
Un dossier publié par l'ODGM Média, c'est bien ça?
C'est ça. Et ça décrypte vraiment les enjeux de la 18e édition du SIAM, donc le Salon international de l'agriculture au Maroc, qui se tient à Meknès.
Et ce qui saute aux yeux dès les premières pages, c'est le ton. Il y a un contraste énorme avec ce qu'on connaît d'habitude.
Bah oui, parce que historiquement, un salon agricole, c'est l'abondance. On expose les plus belles bêtes, les plus beaux fruits.
C'est une grande fête de la production, une vitrine.
Voilà, une vitrine. Mais le tableau dépeint ici pour l'édition 2026, ça marque une rupture totale. On n'est plus du tout dans le discours promotionnel sur papier glacé.
Pas du tout. Les sources décrivent vraiment un moment de vérité. C'est un miroir presque brutal où le secteur fait face à un mur climatique et économique.
Et si on relie ça à la vue d'ensemble, qu'est-ce que ça signifie concrètement?
En fait, c'est un changement de paradigme fondamental dans la manière de concevoir l'économie agricole. Le dossier souligne que la priorité, ce n'est plus du tout l'expansion.
Parce que pendant des décennies, c'était ça le but, non? Produire plus.
Exactement. Le mot d'ordre mondial, et marocain également, c'était de conquérir de nouvelles terres, d'augmenter les volumes, coûte que coûte. Mais ce salon de 2026 met en lumière le passage d'une logique d'expansion à une logique de robustesse.
La robustesse.
C'est-à-dire?
Techniquement parlant, la robustesse, c'est la capacité d'un système à absorber des chocs externes sévères et répétés sans s'effondrer.
D'accord, donc on ne cherche plus la performance maximale à tout prix.
Voilà, l'enjeu n'est plus de battre des records de tonnage lors des années où il pleut beaucoup. Il s'agit plutôt d'arriver à stabiliser une production suffisante, mais avec infiniment moins de ressources.
Et dans un environnement devenu super imprévisible en plus. C'est exactement ça. Et le magazine va très loin dans les termes utilisés. L'éditorial parle littéralement du, je cite, « SIAM du réel ».
Le SIAM du réel, c'est fort comme expression.
Oui, on parle d'un salon de transition. Et surtout, c'est un mot qui revient en boucle dans le dossier. Un salon d'arbitrage.
D'arbitrage. J'essaye de me représenter ce que ça signifie sur le terrain, en fait. J'ai une image qui me vient en tête.
Laquelle?
C'est comme une analogie avec l'automobile. Les éditions précédentes du SIAM, ça ressemblait au showroom rutilant d'un concessionnaire.
Oui, on admirait les modèles d'exposition, on célébrait la puissance des moteurs.
C'est ça. Mais en 2026, d'après les sources, l'ambiance est plutôt celle d'un atelier de mécanique en pleine urgence. Le véhicule de l'agriculture marocaine est sur le pont élévateur, le capot est ouvert.
Et on constate que le moteur est en surchauffe critique. C'est une excellente image.
Et du coup, l'arbitrage dans ce contexte, c'est quoi?
Eh bien, l'arbitrage, c'est ce moment douloureux où le mécanicien doit décider quelles pièces sont absolument indispensables pour continuer à rouler.
Et quelles pièces il va falloir sacrifier parce qu'elles consomment trop d'énergie.
Exactement. Comment faire avancer la machine alors que le réservoir est presque à sec?
C'est frappant. Mais ça implique des choix économiques terribles, non? On ne soutient plus toutes les filières de manière égale. En gros, on choisit qui survit.
Oui, et c'est tout l'enjeu du débat sur la souveraineté alimentaire mis en avant par le document. L'ambition de garantir la sécurité alimentaire du pays se heurte frontalement à une réalité climatique qui ne pardonne plus aucune inefficacité, en fait.
Donc, une filière très gourmande en ressources, on va la regarder différemment aujourd'hui.
Tout à fait. On va se demander si sa contribution à la sécurité nationale justifie son coût écologique et financier. Il y a cette tension constante entre ce qu'on voudrait idéalement produire pour l'export et ce que le climat nous permet réellement de soutenir.
Alors justement, parlons de la cause de cette surchauffe du moteur. Tout nous ramène à une seule et unique variable dans ce dossier, c'est l'eau.
Oui, l'eau n'est plus traitée comme un simple intrant agricole parmi d'autres.
Le dossier dit même que c'est la question qui commande désormais toutes les autres. Mais là, j'avoue que je bloque un peu, je me fais l'avocat du diable, mais l'agriculture a toujours dépendé de l'eau.
C'est vrai, oui.
Et le Maroc a traversé des cycles de sécheresse extrêmement sévères par le passé. Les agriculteurs ont toujours eu les yeux rivés vers le ciel. Pourquoi ce dossier insiste-t-il autant sur le fait que ça devient aujourd'hui une affaire de planification globale?
Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'échelle de l'impact. Historiquement, une sécheresse s'était perçue comme un accident conjoncturel.
Une mauvaise année à passer, en gros.
Voilà, on s'adaptait tactiquement, on puisait un peu plus dans les réserves et on attendait la pluie. Mais le dossier de l'ODG Média montre que l'eau n'est plus une contrainte physique passagère. Elle est devenue la matrice centrale de tout investissement.
Ah, on passe de la tactique à la stratégie, donc.
C'est le mot juste. Avant, l'agriculteur se demandait « comment vais-je irriguer ce champ de tomates ?» Aujourd'hui, la question, c'est plutôt « le climat local justifie-t-il d'autoriser une culture aussi demandeuse en eau dans cette région précise ?»
C'est un renversement total. En fait, c'est l'eau qui dicte l'allocation des capitaux maintenant.
Absolument. Investir dans certaines filières traditionnelles dans des zones qui s'assèchent, c'est perçu aujourd'hui comme une erreur financière absolue.
Ça ne pardonne plus.
Et le dossier pointe un risque majeur qui découle de tout ça. C'est l'émergence d'une agriculture à deux vitesses. C'est vraiment l'un des points d'alerte les plus critiques.
D'un côté, les très bien équipés et de l'autre, les plus vulnérables.
C'est ça. D'un côté, on voit se structurer une agriculture hyper capitalisée, capable d'investir dans des stations de dessalement privées, des capteurs connectés, des réseaux ultra efficients.
Et de l'autre côté,
une agriculture plus traditionnelle, sous-équipée, qui reste totalement à la merci des précipitations naturelles. Et sans une planification étatique forte, cette seconde catégorie est vouée à une marginalisation rapide.
C'est pour ça que le Salon met autant l'accent sur les solutions de gestion de la donnée, j'imagine.
Oui, la donnée publique joue un rôle clé pour éviter cette fracture.
D'ailleurs, les sources mentionnent une alliance très intéressante à ce sujet. Un partenariat entre l'ONCA, donc l'Office national du conseil agricole, et la DGM, la Direction générale de la météorologie.
Oui, ce partenariat illustre parfaitement la parade face à cette agriculture à deux vitesses. L'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la donnée de pointe.
Concrètement, ça donne quoi pour l'agriculteur sur le terrain ?
Eh bien, il ne s'agit plus de fournir un bulletin météo régional un peu vague. L'Alliance vise à fournir des modèles prédictifs micro-locaux, directement aux exploitants.
Genre sur sa parcelle précise ?
Exactement. Imaginons un agriculteur qui reçoit une alerte lui indiquant qu'avec le vent sec et la température prévue sur sa parcelle, disons mardi à 14h, l'évaporation sera maximale.
Ah oui, très précis.
Et la recommandation sera de retarder le goutte-à-goutte de quelques heures pour maximiser l'absorption par les racines de la plante.
C'est de la précision chirurgicale. Appliquée à l'échelle d'un pays, on doit économiser des millions de mètres cubes d'eau avec ça.
C'est ça. C'est la donnée qui vient compenser la rareté physique de la ressource.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On saisit comment l'information devient un pur outil de survie. Mais si on suit cette logique de l'eau qui dicte ses lois, il y a un secteur qui semble prendre la crise de plein fouet. Et ce n'est pas celui auquel on pense en premier.
Vous parlez de l'élevage.
Oui, la production animale. Le dossier déligne l'élevage comme étant en première ligne de ce crash test économique. Spontanément, le manque d'eau, on l'associe aux céréales qui jaunissent, pas directement à la viande ou au lait.
Et pourtant, les sources décrivent une véritable tempête parfaite qui s'abat sur ce secteur.
Une explosion des coûts de l'alimentation, une volatilité des marchés, des risques sanitaires.
Le lien de causalité est direct et franchement, il est brutal. On peut comparer le système de l'élevage actuel à une tour de Jenga. Vous savez, ce jeu avec des blocs de bois empilés.
Oui, où il ne faut pas faire tomber la tour.
Voilà. Et la fondation de cette tour, la brique située tout en bas, qui soutient l'ensemble du système, ce sont les ressources fourragères et pastorales locales.
C'est-à-dire l'herbe que les troupeaux broutent naturellement dans les pâturages.
C'est ça. Le déficit pluviométrique chronique retire violemment cette brique fondatrice.
Et donc, toute la tour vacille.
Mécaniquement. Si la brique naturelle disparaît, l'éleveur doit compenser. Il est obligé d'acheter des aliments de substitution, souvent des concentrés industriels ou des céréales importées.
Et ça, ça coûte une fortune.
Oui, parce que ces matières premières sont soumises aux fluctuations des marchés mondiaux. Les coûts de production de l'éleveur explosent littéralement du jour au lendemain et sa marge bénéficiaire est anéantie.
J'imagine que l'onde de choc ne s'arrête pas à la ferme.
Sûrement pas. Elle remonte toute la chaîne de valeur jusqu'à la ville où le consommateur voit le prix du kilo de viande ou du litre de lait flamber. En fait, l'élevage, ce n'est pas qu'un secteur, c'est un convertisseur d'eau et de biomasse.
Donc quand la biomasse manque, c'est l'économie entière de la filière qui s'effondre. Mais face à ce constat alarmant, quelles sont les solutions mises sur la table au SIAM ? Parce qu'on ne peut pas dire aux éleveurs de juste attendre la pluie ou d'importer à perte.
Heureusement, le dossier explore des voies d'adaptation assez poussées, qui transforment la nature même du troupeau. On parle d'abord de valoriser les sous-produits agro-industriels.
Au lieu de jeter les déchets, par exemple, de l'industrie sucrière.
C'est l'idée. en développe des procédés pour les transformer en aliments nutritifs pour le bétail. Ça crée une économie circulaire qui réduit la dépendance aux importations. Mais la riposte la plus profonde abordée par les experts, ça concerne la génétique animale.
Ah, la génétique! Quand on dit ça, on imagine tout de suite des laboratoires qui cherchent à créer des animaux plus gros pour faire plus de viande, non?
Eh bien ici, ce n'est pas du tout l'objectif.
Ah bon?
Non, l'objectif de la sélection génétique détaillée dans ces documents, c'est l'adaptation climatique, pas la croissance des volumes. Il s'agit d'identifier et de propager des traits de robustesse métabolique.
La robustesse métabolique. Concrètement, sur une vache ou un mouton, ça se traduit comment ?
On sélectionne, par exemple, des lignées capables de maintenir leur température corporelle lors des vagues de chaleur extrêmes, sans que leur production laitière ne s'effondre.
Impressionnant.
On cherche aussi des animaux capables d'assimiler des fourrages de qualité médiocre, beaucoup plus fibreux, qui poussent dans des conditions arides. C'est la science génétique utilisée pour, en quelque sorte, reprogrammer le cheptel face à un climat semi-désertique.
Et le magazine souligne aussi un mouvement vers des filières qui sont, par nature, plus en phase avec cet environnement. On mentionne un intérêt stratégique nouveau pour la filière camel, les chameaux et dromadaires, qui sont parfaitement adaptés à la rareté de l'eau.
Oui, et pour l'aviculture aussi, la volaille présente un cycle de croissance extrêmement rapide et un très bon ratio de conversion alimentaire par rapport aux ruminants.
C'est fascinant de voir comment le climat force à redessiner la carte même des espèces élevées. Mais tout ça nous amène à la question des moyens. On a vu le mur climatique, on a vu l'urgence. Avec quel arsenal le secteur compte-t-il se battre ?
Le dossier met en évidence un triptyque essentiel : l'innovation technologique, l'ingénierie institutionnelle et l'inclusion financière. C'est vraiment l'arsenal de la résilience.
Commençons par la tech, parce que les annonces foisonnent dans le magazine. On y détaille la convention Jazari pour accélérer la digitalisation. Il y a aussi cet accord majeur, Datatica, entre la CNDP et le ministère de l'Agriculture pour sécuriser les données.
Oui, on voit émerger tout un écosystème de start-up agritech.
Et il y a même des géants industriels comme Smurfit Westrock qui interviennent sur des créneaux, disons, inattendus, comme le packaging. D'ailleurs, c'est quoi le rapport entre un carton d'emballage et la lutte contre la sécheresse ?
Le lien direct, c'est la réduction des pertes post-récolte. C'est une forme très pernicieuse et invisible de gaspillage d'eau.
Comment ça ?
Eh bien, si une tomate est cultivée avec une irrigation de précision, utilisant une eau chèrement acquise, mais qu'elle pourrit pendant son transport à cause d'un emballage inadapté...
C'est toute l'eau contenue dans cette tomate qui est jetée à la poubelle.
Exactement. L'innovation apportée par des acteurs comme Smurfit Westrock, c'est de concevoir des packaging avec des matériaux avancés qui régulent l'humidité, la température et la circulation de l'air autour du produit.
Donc, en prolongeant la durée de vie du fruit entre le champ et le supermarché, on sécurise le rendement final.
Voilà, l'emballage devient un maillon actif de la performance agronomique.
Joie. Mais je me permets de poser un défi direct.
Allez-y.
L'élevage de précision, les algorithmes, les packagings intelligents, tout ça demande des investissements colossaux. N'est-on pas en train de créer un magnifique catalogue de gadgets technologiques réservés à une élite ?
C'est la vraie question.
Bah oui. Comment éviter que cette innovation ne reste cantonnée aux fermes pilotes sans jamais atteindre le petit exploitant dans le monde rural profond ?
Cela soulève une question cruciale, qui est d'ailleurs au cœur des inquiétudes formulées dans le dossier. Une technologie qui ne se diffuse pas, elle n'a aucune utilité macroéconomique face au changement climatique.
Donc comment on fait le pont ?
C'est ici qu'intervient le deuxième pilier de l'arsenal AGI, les organisations interprofessionnelles. Les documents citent par exemple le rôle stratégique de l'ANOC, l'Association nationale ovine et caprine.
Et quel est leur rôle dans tout ça ?
Leur mission, c'est d'agir comme une courroie de transmission. Elles mutualisent les coûts et le savoir. L'innovation cesse d'être un luxe individuel pour devenir une infrastructure collective.
D'accord. Elles achètent les capteurs en gros pour les distribuer, par exemple ?
Exactement. Ou elles regroupent les données de centaines d'éleveurs pour négocier avec les fournisseurs ou pour diffuser les bonnes pratiques génétiques.
Mais au-delà de la technique, il faut des ponts financiers surtout.
Et le dossier met un accent massif sur l'inclusion financière. Le Crédit Agricole du Maroc est omniprésent dans ces pages. La transition demande des capitaux que le petit agriculteur n'a tout simplement pas.
J'ai vu qu'il détaille des conventions avec la COMADER.
Oui, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Le but est d'accompagner spécifiquement la transition verte, de financer l'installation du goutte-à-goutte avec des mécanismes de crédit adaptés aux revenus très irréguliers des ruraux.
En parlant de partenariats étonnants, le magazine cite aussi un accord avec le groupe automobile Stellantis, quel est le rapport entre un constructeur de voitures et un petit agriculteur ?
Le concept clé ici, c'est la micro-mobilité rurale. L'idée est de résoudre un problème logistique hyper concret du quotidien.
Comment déplacer sa marchandise ?
C'est ça. Comment un petit producteur peut-il amener de faibles volumes de tomates vers un point de collecte ou déplacer des équipements entre des parcelles morcelées sans avoir à acheter un gros camion ou à payer des intermédiaires qui mangent toute sa marge ?
Ah, donc on introduit de petits véhicules ?
Des véhicules utilitaires légers, électriques ou à très faible consommation. Ça permet de désenclaver l'exploitant et de le connecter plus directement au marché.
C'est fondamental et ça nous ramène vraiment à la réalité du terrain. On se rend compte que derrière les termes très froids comme la data ou l'inclusion financière, l'enjeu est profondément humain.
Oui, et le dossier prend d'ailleurs le soin de mettre des visages sur cette transition.
Notamment sur la valorisation du terroir. J'ai un chiffre très révélateur du salon. 455 médailles décernées aux produits du terroir marocain.
C'est énorme. C'est une volonté très claire de sortir d'une logique de volume anonyme pour aller vers une production identitaire à forte valeur ajoutée.
Vendre moins, mais vendre mieux en fait.
En capitalisant sur une appellation d'origine qui garantit un prix premium. C'est une stratégie de résilience économique redoutable.
Exactement. Et le dossier met en lumière celle qui porte cette stratégie au quotidien. On y cite nommément des dirigeantes de coopératives qui étaient présentes au SIAM. Amal Segrouchni, Zara El Alouani, Najat Tofaï.
Elles ne font pas que cultiver, en effet. Elles organisent la transformation, le marketing, la distribution.
Elles incarnent cette agriculture qui s'adapte par le bas, par la base même, grâce à l'intelligence sociale. Mais, et c'est le paradoxe, malgré ce dynamisme, il y a une ultime mise en garde dans les pages de l'OGI Média.
Un signal d'alarme, oui.
Une ombre au tableau. C'est la question de l'emploi agricole et de la fuite des jeunes.
Le magazine aborde ce problème de façon très frontale. On peut aligner toutes les solutions techniques du monde, introduire la génétique de pointe, la gritech. Si les jeunes refusent de reprendre les fermes, le système s'effondrera de l'intérieur.
Et on comprend pourquoi ils partent. La pénibilité du travail est exacerbée par les conditions climatiques de plus en plus extrêmes.
Et il y a aussi le manque d'infrastructures sociales dans certaines zones rurales. Ça crée un exode continu. La conclusion des analystes est claire, hein. La modernisation de l'agriculture sera totalement vaine si elle n'est pas accompagnée d'un effort massif pour rendre les territoires ruraux attractifs.
L'équation n'est pas que technologique, elle est avant tout démographique.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, Evelyne ? Si on doit prendre un peu de recul sur tout ce que ce dossier spécial SIAM 2026 nous a révélé. L'idée centrale, c'est que l'agriculture a quitté l'illusion d'une croissance infinie des volumes. On est entré dans l'ère de la gestion millimétrée de la rareté.
Le message du salon est d'une grande lucidité à ce niveau.
Le succès ne se jugera plus seulement sur les tonnes récoltées les bonnes années, mais sur les ressources préservées et la capacité des hommes à résister pendant les mauvaises années. C'est vraiment le passage de la célébration à l'adaptation.
Ce qui pousse à s'interroger sur l'impact à très long terme de tout ça. Si l'on pousse la logique jusqu'au bout, on réalise que l'agriculture n'est que la première ligne d'un changement beaucoup plus intime pour nous tous.
C'est-à-dire ?
L'empreinte hydrique et la rareté de l'eau dictent de manière implacable quelles espèces ont encore le droit d'être cultivées ou élevées. Que va-t-il se passer dans nos cuisines ?
Ah, nos recettes vont changer.
Dans quelques décennies, on peut se demander si nos cultures gastronomiques traditionnelles, les recettes de nos grands-mères, ne seront pas progressivement réécrites. Non pas parce que nos goûts auront changé, mais simplement parce que le climat aura décidé des ingrédients qui ont encore le droit d'atterrir dans nos assiettes.
C'est une réflexion qui illustre parfaitement à quel point la métamorphose de l'agriculture finira par toucher l'identité culturelle de chacun d'entre nous.